Émission On en jase, midi à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1. Va suivre le retour de Gravel avec Denis, Véro et Audrey. C'est pas Marceau ce soir, c'est le garage à Dan ce soir. Et par la suite, bien lundi, c'est toute l'équipe qui est de retour de semaine avec Marceau le matin, le point de max. Marceau le matin de 6 à 10 et le point de max de 10h à midi. Pascal Cévé, tu me fais un beau cadeau à midi.
Oui, je t'amène à un des meilleurs collaborateurs en politique. C'est sûr que je l'aime foncièrement parce qu'avec lui, c'est autant dans le débat, dans l'analyse, ouais, que dans la critique, que dans l'observation. Je l'aime et tu le sais, donc je te le partage. Là.
Merci, t'es très gentil. C'est Victor Henriquez qu'on a au bout du fil, analyste politique. Monsieur Henriquez, comment allez-vous?
En passant, monsieur, c'est mon père, mais ça va très bien.
Ben, je vais t'appeler Victor avec un super plaisir. Victor, je veux qu'on commence par les élections municipales parce que Sam Ahmad a présenté son candidat dans le district de Saint-Roch, qui est justement le restaurateur Napoléon Wu. Et il est revenu sur sa décision de départ de dire « je vais faire un seul mandat ». Est-ce que la campagne de Sam Ahmad est déjà trop dans le trouble pour qu'il puisse remonter la pente? J'ai l'impression d'entendre une girouette présentement.
Les élections municipales, c'est 45 jours. Hein. C'est parmi les élections les plus longues qu'on a. Donc, je pense qu'il y a encore tout à jouer pour Sam Ahmad, mais c'est clair que ça a été un début de campagne, une pré-campagne difficile dans le cas de M. Ahmad. Il faut dire aussi qu'à Québec, la division, elle est particulière. Hein. C'est probablement la course la plus serrée qu'on a à travers le Québec. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs candidats, M. Lachance, M. Ahmad, M. Villeneuve, Mme Smith, qui font la lutte à Bruno Marchand. Et ultimement, ce que ça fait, c'est que ça fait une division d'opposition qui est assez importante et qui fait probablement que Bruno Marchand risque de passer à cause de cette division-là. Alors, oui, on a tout à réécrire, mais du côté de Salomad, on doit recentrer la campagne sur vraiment ce que les citoyens de Québec veulent. Et du côté des autres, ça va être toute la question du déficit de notoriété, Jean-François Pascal, parce que ça reste qu'au municipal, c'est super important. Toute participation est toujours aux alentours de 30-40%, puis les candidats les plus connus ont souvent un avantage dans des circonstances comme celle-là.
Je ne sais pas si on se trompe en affirmant ça. En fait, je vais laisser Jeff penser par lui-même. Je ne veux pas lui mettre les mots dans la bouche, mais j'ai l'impression que les citoyens sont très, très impliqués en ce moment dans la campagne municipale.
Vraiment.
Comparativement à ce qu'on peut avoir vu auparavant. À Québec, il y a quelque chose depuis une dizaine d'années. Là, l'implication est là quand même et ça se manifeste beaucoup par nos textos au 88-971-1021. En ce moment, par exemple, on a l'impression d'avoir de la pauvre politique, la politique maigre. Nous autres, ça chicane, ça s'envoie des insultes, ça se traite de mafioso. Je te jure, Victor, c'en est gênant. Je ne sais pas si tu as eu écho de ce qui se passait à Québec.
Oui, j'ai entendu beaucoup de choses, puis j'avoue que ça joue très, très bas. J'écoutais notamment hier la déclaration de Covina qui disait que Sam Ahmad l'avait menacé. Je vais être très transparent. Je connais Sam Ahmad depuis de nombreuses années. Il peut avoir des qualités et de nombreux défauts, certainement, mais je suis un peu surpris par les déclarations et la façon dont ça a été pris. Faut faire attention, faut baisser le ton de cette campagne-là parce que c'est très long, 45 jours, et parce que les citoyens vont finir par tanner de ce genre de ton-là aussi. Hein. Il faut se le rappeler, ce qu'on fait au municipal, c'est la politique la plus proche des gens. C'est pour ça qu'à Québec, ça pogne autant, parce que vous avez des enjeux importants à Québec. Le tramway, le troisième lien, toute la question des services à Québec, toute la question des commerçants aussi, notamment, vous avez parlé de Saint-Roch. Saint-Roch, c'est un quartier où est-ce qu'il y a des commerçants qui sont mécontents de la gestion de la ville. Alors, c'est des enjeux qui sont très proches du monde. Et dans ce temps-là, il ne faut pas faire de la politique spectacle, il faut faire de la politique proche des gens. Et c'est là où je surveille notamment Stéphane Lachance, parce que je trouve qu'il fait une bonne remontée parmi ces candidats-là, ancien candidat conservateur, un ton peut-être qui ressemble plus à ce qu'on entend à Québec ces temps-ci comme mouvance. Alors, je serais curieux de voir comment est-ce que ça va finir la course. Et au municipal, on voit souvent des underdogs ou des gens moins connus monter au fur et à mesure d'une campagne en puissance et finir très proche du gain. Moi, j'ai un exemple à Montréal qui a été celui de Mélanie Joly, par exemple, qui était quasiment inconnue au début de la campagne contre Denis Coderre et Valérie Plante, puis qui avait fini à 20-quelques%. Et ça se passe dans toutes les villes. Donc, vraiment, c'est une invitation aux gens à faire attention, aux politiciens, aux candidats, à faire attention à leur ton, parce que les gens de Québec sont impliqués au municipal, et ils veulent des résultats dans leur ville. Alors, mm-hmm. les grands slogans puis les grands frachats, pas sûr que ça pogne trop fort.
Justement, Victor, est-ce que Stéphane Lachance devient le pire ennemi de sa mamade? Et je m'explique, lors du dernier sondage qui plaçait les candidats avec des pourcentages, et d'ailleurs, Somme nous a promis qu'il va en faire un prochainement, il y avait 52 % des gens qui votaient plus à gauche de l'échiquier politique avec Bruno Marchand, Claude Villeneuve et Jackie Smith, et 48 % à droite. Mais là, je sens vraiment un effritement chez Jackie Smith et Claude Villeneuve au profit de Bruno Marchand, alors que Stéphane Lachance vient gruger dans sa mamade. C'est positif, ça, pour Bruno Marchand?
Complètement. Et c'est son pire ennemi, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu des discussions pour tenter de le recruter du côté de M. Hamad. Hein. Mm-hmm. On aurait voulu l'avoir dans son équipe, certainement, justement pour avoir cette unité des candidats plus à droite versus les candidats plus à gauche. Et c'est vrai que, naturellement, les gens plus à gauche qui vont vouloir garder une municipalité peut-être plus progressiste avec une vision plus environnementale et certains aspects semblables à celui-là vont probablement faire le sacrifice de leur vote. C'est un peu ce qu'on a vu au fédéral, par exemple, avec le NPD puis Mark Carney. Hein. On a des votes de principe, mais au fur et à mesure du campagne, notre vote peut devenir un vote utile. Mmh. Et dans ce cas-ci, Sam Hamad ne représente plus seul le vote de l'opposition à Bruno Marchand. Il va devoir regarder dans son angle mort Stéphane Lachance. Et du côté de Bruno Marchand, ben, on peut au contraire espérer aller rallier les adversaires plus naturels dans une vision de la ville qui sont un peu plus proches de ce que ces gens-là veulent naturellement.
Bon, Réfifi au municipal, quand même Réfifi au provincial,
mais, hein?
Avec la députée qui vient de dire « Non, moi, le nouveau Conseil des ministres, je ne suis pas dedans, donc ça ne m'intéresse pas, j'ai l'impression d'avoir été trahi. » En d'autres mots, là, c'est ce qu'on peut comprendre, par son premier ministre, François Legault. Et là, vous savez de qui je parle, là, donc de Maïté Blanchette Vézina, qui a quitté le caucus de la CAQ, qui critique François Legault. Et François Legault qui revient sur les propos critiques de Mme Blanchette Vézina. Bon, est-ce qu'on peut encore dire que c'est de la base politique?
Ben, je pense que de ce côté-là, c'est plutôt attendu. Hein. Du côté de Québec, Maïté Blanchette-Vézina, qui était, pour les gens qui la connaissent moins, ministre des Forêts, notamment, qui avait déposé une réforme forestière qui a été très décriée, notamment par les communautés autochtones. Donc, tout ça pour dire qu'elle n'avait pas nécessairement eu le mandat comme ministre avec le plus grand succès, la plus grande tranquillité autour de ses dossiers non plus. Là. Elle quitte parce elle est frustrée de ne pas être ministre et aussi parce qu'elle dit avoir perdu confiance en son chef. Ça fait à peu près une semaine qu'on voyait ça venir. Je m'attendais à ce que François Legault réplique, bien sûr. Et il faut aussi dire que lors du caucus, Mme Blanchette-Vézina a eu des mots très durs envers son chef. Et les membres du caucus se sont majoritairement ralliés derrière François Legault. Pourquoi je dis ça? Parce que malgré la sortie de Pierre Dufour qui a été renvoyé du caucus, malgré Maïté Blanchette-Vézina, on ne sent pas encore de vague de fond interne contre François Legault. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut bouger? Tout à fait. En politique, ça peut arriver très rapidement. Pourquoi je vous parle de vagues internes? Parce que c'est bien beau les sondages et tout ça, mais la réalité, c'est que pour qu'un chef quitte, ça prend de l'interne qui vous sorte. Puis le meilleur exemple, c'est Justin Trudeau. Qu'est-ce qui est arrivé à Justin Trudeau? C'est quand Chrystia Freeland s'est fait dire « Tu t'en vas du ministère des Finances », elle a fait une sortie en règle et elle a catalyser tous les gens à l'intérieur du parti qui s'opposaient à Justin Trudeau. Dans le cas de François Legault, on n'est pas encore rendu là. Est-ce qu'on pourrait s'y rendre? Probablement. Puis, je vais vous donner un nom. François Bonnardel. François Bonnardel qui n'était pas au caucus de jeudi. François Bonnardel qui est un historique de l'ADQ, de la CAQ, qui fait partie des grands fidèles à François Legault. Si François Bonnardel, par exemple, venait à virer sa chemise de bord, si quelqu'un avec cette ampleur-là venait à dire François Legault n'est plus l'homme de la situation, là, on pourrait voir une mobilisation, d'après moi, beaucoup plus forte. Dans le cas de Maïté Blanchette-Bézina et Pierre Dufour, leur discours sur les régions est très intéressant à entendre, puis il est très vrai que François Legault n'a pas nommé de ministre dans ces régions-là, de la Gaspésie puis de l'Abitibi. Cependant, je ne pense pas qu'ils ont la traction interne à la CAQ pour vraiment créer une vague de fond contre le premier ministre.
Donc, ça prend quelqu'un vraiment qui a une expérience politique et qui a déjà géré de gros ministères, comme on l'a vu avec Chrystia Freeland, qui était justement la ministre des Finances. Et là, François Bonnardel, qui est une ancienne grosse tête. Est-ce que si François Bonnardel tourne la tête à la CAQ, il va être tenté d'aller rejoindre quelqu'un avec qui il a déjà travaillé en politique provinciale, c'est-à-dire Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec?
Je serais surpris que la réflexion aille aussi loin que ça, honnêtement, parce que François Bonnardel a une histoire longue avec la CAQ. Il est connu comme un homme très loyal à ses idées politiques. Donc, je pense pas que ça irait aussi loin que ça, mais François Bonnardel a la qualité d'abord d'être connu du public, c'est une première chose, mais aussi d'être apprécié à l'intérieur de son parti, très apprécié à l'intérieur de son parti. Et c'est ça le plus grand point en commun avec Yishuv Fillon, c'est qu'ils ont la capacité de... Les gens vont se dire, mon Dieu, si eux bougent, si eux ne sont plus d'accord, peut-être que je devrais me poser des questions. Cette capacité d'influence-là qu'ils ont, je pense que c'est elle qui peut faire des dommages. Je serais surpris de le voir ailleurs. Je serais même surpris de le voir se représenter, honnêtement. Je pense que pour François Bonnardel, la déception doit être très grande. Il le gère autrement, peut-être dans une sphère plus privée. On a tous très hâte de l'entendre, honnêtement, parce que on pense tous qu'il a payé pour sa clique, mais il a peut-être aussi payé pour d'autres choses. Ce serait intéressant d'entendre sa vision là-dessus. Donc, à suivre. Mais pour l'instant, je pense qu'on est quand même dans des dommages que M. Legault pourra contrôler. La réalité, c'est que les gens qui nous écoutent sont tellement barouettés dans plein d'informations que dans une semaine ou deux, on va probablement oublier Maïté Blanchette, Bézina et Pierre Dufour.
Victor, je viens d'enregistrer un podcast avec Joël Boutin, l'ex-député de Jean Talon pour la Coalition Avenir Québec, qui sera disponible dans deux semaines. Et elle me dit dans le podcast, moi, j'aime pas ça quand les gens comme Maïté Blanchette, Bézina font une sortie publique contre le chef, contre le parti politique qui les a mis au monde. Moi, quand je suis parti, je ne l'ai pas fait parce que j'ai énormément de respect pour le premier ministre et la CAQ. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu es plus Joël Boutin ou plus Maïté Blanchette-Vézina?
Moi, je suis naturellement plus Joël Boutin. Je pense que dans leur cas, surtout à la Coalition Avenir Québec, il y en a plusieurs qui doivent leur élection presque exclusivement à François Legault. Il faut se le rappeler, en 2022, lorsque l'élection arrive, François Legault, il marche sur l'eau, littéralement. Et à peu près n'importe qui se présente dans son parti, dans l'axe du fleuve Saint-Laurent, se fait élire à ce moment-là. C'est pour rien qu'on a fini à 90 députés. Donc, je pense que chez les gens, on oublie un peu ça. Je pense que oui, il y a des choses qui se disent à l'interne avant de se dire à l'extérieur. Maïté Blanchette-Vézina a dit au caucus, mais rapidement est sorti à l'extérieur. Alors, je suis vraiment plus partisan des chicanes de famille qui restent dans la famille. Maintenant, il y a une chose, par exemple. À un moment donné, si les chefs ne sont pas prêts à écouter ce qui se dit à l'intérieur, là, ça peut sortir. Je pense que c'est ça la différence. C'est que dans le cas de François Legault, à l'intérieur, il y a encore un appui. Mais c'est inévitable que si ça se multiplie et qu'à l'intérieur du caucus, à l'intérieur de la famille, on critique et qu'il n'y a pas d'écoute, ben là, ça risque de sortir. À ce moment-là, c'est justifié que ça sorte parce que ça veut dire que la méthode douce, diplomate, ne fonctionne pas.
Victor, on aimerait faire un petit tour du côté des États-Unis maintenant parce que, veux pas, c'est dans notre angle mort en ce moment, mais c'est un angle mort qui va nous rentrer dedans pas à peu près si on décide de tourner à gauche. Honnêtement, ça divise la population, cette mort de Charlie Kirk. Ça amène énormément de questionnements aussi sur la liberté d'expression, entre autres l'émission de Kimmel qui a été arrêtée, en fait, dans le sens où M. Kimmel n'a plus le droit de l'animer. Il est sanctionné, on l'a retiré des ondes. Hier, on avait Jimmy Fallon qui a pris la parole. Il l'a fait de main de maître, honnêtement. Pour le contexte, là, pour les auditeurs. Jeff, je sais pas si tu as vu,
oui, j'ai
mais
vu
Jimmy
entendu.
Fallon est arrivé en onde et lui, là, il a annulé toutes ses affaires dans son horaire dans les dernières heures. Il attendait d'être en onde dans son émission pour faire un certain appui envers Jimmy Kimmel, qui est son adversaire veut-veut pas de talk show.
Exactement.
Puis, il a fait une allocution qui était et se voulait assez critique de Donald Trump et son administration et sa façon d'agir. Mais quand il était critique, ce qui passait par-dessus ses paroles, c'est un genre de jougue total. On applaudissait Donald Trump, on le faisait paraître comme un grand roi. Fait que c'est comme si moi, je parle en ce moment, à chaque fois que je critique Donald Trump, il y a une autre voix qui apparaît, qui prend le contrôle des ondes puis qui dit des choses merveilleuses sur Donald Trump. Revenons aux moutons. Maintenant, en ce qui concerne la liberté d'expression aux États-Unis, avec ce qu'on voit, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois de ça?
Il y a tellement de choses à dire, hein, et on pourrait faire 2 heures là-dessus seulement, je pense, exclusivement, mais c'est important de...
Oh, est-ce qu'on a perdu Victor avec un « c'est important de... » Je sais pas si tu veux vérifier, Pascal.
La ligne s'est coupée, je vais la rappeler.
Exactement. Donc, en attendant, là, justement, vous mentionnez qu'on parlait avec Victor Henriquez, analyste politique, et qu'on était rendu à parler de la liberté d'expression aux États-Unis. Vous rappelez que Karl Malenfant se fait vraiment brasser à l'heure actuelle à la commission Gallant. On a mis en preuve, justement, le fait que M. Malenfant s'était transféré lui-même sur son courriel personnel la soumission de la firme Deloitte, qui n'a pas gagné justement la soumission. Ça a été le groupe SAP qui l'a emporté. Alors, on pose des questions là-dessus à Carl Malenfant, qui a eu besoin d'une pause parce qu'il s'est lui-même autoproclamé.
Oh, il y a eu chaud. Il y a eu chaud. Puis on a parlé avec Nicolas Lachance, journaliste au Journal de Québec. Ce sera sur le site web de BLVD.fm tantôt.
Victor Henriquez est de retour parmi nous. Victor, te dis, on pourra en parler pendant 2 heures. Hey, il y a zéro problème, mon ami. On pourra en parler pendant 2 heures. Tu vois ça comment, la liberté d'expression? Est-ce qu'elle est brimée aux États-Unis à l'heure actuelle de la façon que Donald Trump gère le tout?
La liberté d'expression est brimée et là, il s'attaque à un morceau très, très lourd parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les artistes, ces gens comme Jimmy Kimmel qui font partie du gratin d'Hollywood sont une espèce de royauté aux États-Unis. Hein. Et s'attaquer à eux, s'attaquer à ce monde-là, ça m'apparaît très risqué pour le président américain. Il y a un élément qu'il faut amener dans la discussion, c'est que dans les heures qui ont précédé la décision d'NBC, le dirigeant de la FCC, qui est la Commission fédérale des communications, avait dans un podcast menacé à mots très peu couverts ABC de prendre des mesures à cause de ce que Jimmy Kimmel avait dit. Donc, je pense qu'il faut quand même ramener en contexte parce qu'il y a eu des menaces d'un officier gouvernemental nommé par le président. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que M. Trump utilise ses alliés au pouvoir, utilise le gouvernement contre des gens qui ne sont pas d'accord avec lui pour des raisons absolument ridicules. Est-ce que Jimmy Kimmel est allé trop vite, trop loin? Je pense que oui. Je pense que les déclarations de Jimmy Kimmel, d'ailleurs qui étaient fausses, étaient risquées pour quelqu'un qui prend la parole. Et il y a une responsabilité avec une prise de parole. Mais entre ça et le canceller complètement, il y a une marge entre les deux. Je pense qu'on aurait certainement pu trouver une façon différente. Puis ça arrive de se tromper lorsqu'on prend les ondes. Il faut le reconnaître. Mais là, on est vraiment dans un autre niveau. Et lorsqu'on voit les interventions, tu parlais hier de celle de Jimmy Fallon, Pascal, mais ces interventions-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles amènent le débat complètement sur un autre niveau. Où est-ce que vous allez voir dans toute la préélection des élections de mi-mandat, vous allez voir cette dénonciation d'un président qui est en train de devenir de plus en plus autoritaire, d'un président qui est sur le bord de blâmer des droits essentiels de la Constitution. Et les Américains sont très amoureux de leur Constitution. Ouais. Est-ce que vraiment Donald Trump va réussir à attaquer ça? La liberté d'expression est très importante pour eux. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon terrain de jeu pour le président américain.
Du moins, il semblait vouloir le faire avec l'effet de grenouille. Tu sais, quand tu prends une grenouille et tu la mets dans une eau bouillante, là, automatiquement, elle va sortir. Mais tu prends une grenouille et tu la mets dans une eau froide, tu pars le feu là, à moyen. Après ça, tu montes moyen vif. Elle s'en rend pas compte. Puis finalement, elle meurt dans cette eau bouillante-là. Plus que ça s'est fait de façon graduelle, il semblait avoir ce genre de façon de faire-là, Donald Trump, au niveau d'instaurer une nouvelle façon de faire et de présider, en fait, les États-Unis et son peuple. Là, ça a été la grenouille direct dans l'eau bouillante parce qu'on voit même des gens qui sont habituellement très d'accord avec Donald Trump prendre la parole, des gens qui essaient de démontrer justement que la liberté de parole, ici au Québec aussi, ça fait beaucoup réagir. Ça doit être défendu par n'importe qui y croit et de ne pas être hypocrite là-dedans puis d'aller de l'avant, même si on n'est pas en accord avec notre homologue qui a pris parole. Peut-être en terminant, il y a des figures aussi de la gauche. Enfin, on parle de Barack Obama, on parle de Bernie Sanders et autres qui commencent à être assez vocaux sur le fait qu'on ne doit pas haïr la droite, même si c'est des courants de pensée qui sont différents de nous. On doit, au contraire, essayer de débattre ensemble et non de commencer à s'haïr.
Diviser ou pour régner, c'est clairement la vision de Donald Trump. Puis je suis d'accord avec toi. Là. Il rentre dans un terrain dangereux. Il va beaucoup trop vite. Maintenant, il y a une chose, la liberté d'expression avec une responsabilité. Tout ça a commencé pourquoi? Parce que Donald Trump a pris l'assassinat de Charlie Kirk et on a fait un élément purement politique dans les heures qui ont suivi. Il n'a pas pris le temps et la distance nécessaire pour justement être capable d'avoir un discours responsable. Il a mis de l'huile sur le feu. Maintenant, il s'étonne que ça continue. Je suis désolé, mais à un moment donné, on a le président qu'on choisit aussi. Les Américains ont fait un choix en sachant quelle était la personnalité de cet homme-là. On verra si dans les élections de mi-mandat, ils changent leur choix.
Hey, Victor, le rappeler, Victor, ça fait 2 fois que tu parles des élections de mi-mandat, puis moi, j'ai peur parce que l'élection de mi-mandat est dans 1 an. Comment tu me rassures? Qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine année aux États-Unis?
Ben, c'est justement que ce qu'on espère, c'est qu'à la vue des élections de mi-mandat, le président et son administration changent un peu leur façon de faire et soient un peu plus conciliants, soient un peu plus ouverts. Parce que lorsque tu dois gagner des élections, ben, tu dois moins être autoritaire que lorsque c'est pas vraiment important. C'est un peu pour ça que moi, je regarde cette perspective-là, parce que la réalité, c'est que c'est le seul moment que les Américains vont avoir pour passer un message au président. Et de la même façon que Donald Trump ne semble pas écouter grand monde, je suis convaincu, par exemple, qu'il écoute le résultat des élections. Même si, quand il les perd, il nous dit qu'elles sont volées. Moi, je pense qu'il est attentif à ça. Son ego nécessite d'être aimé, selon moi. Alors, c'est là où je pense qu'on peut peut-être le calmer d'ici là. Ouais. C'est un peu ça, mon espoir. Si je voulais te donner espoir pour la prochaine année...
Ah, oh, merci, t'es gentil.
C'est vraiment de te dire, peut-être qu'il va être mieux dans l'année qui va précéder.
Victor Henriquez, merci infiniment pour ta participation à l'émission On en jase ce midi et on se reprend prochainement, c'est certain. En passant, Victor, il y a plusieurs auditeurs qui nous ont texté quand la ligne a coupé que c'était Donald Trump qui avait coupé la ligne parce qu'il ne voulait pas que tu parles contre lui. On va surveiller nos lignes téléphoniques, même au Québec maintenant.
Merci à vous.
Hey, bonne journée, bon week-end, Victor. Merci beaucoup. C'était Victor Henriquez, analyste politique. Pascal, tu as l'extrait justement de Jimmy Fallon, si je ne trompe pas.
Était enregistré pour qu'on puisse l'écouter. Je vous le fais entendre sur mon cellulaire. Je m'excuse du fait que c'est en anglais et aussi de la qualité sonore, mais ça va comme suit.
Well, guys, the big story is that Jimmy Kimmel was suspended by ABC after pressure from the FCC, leaving everyone thinking WTF. This morning, I woke up to 100 text messages from my dad saying, I'm sorry they canceled your show. I go, that's not me. That's Jimmy Kimmel. But to be honest with you all, I don't know what's going on. And no one does. But I do know Jimmy Kimmel. And he's a decent, funny, and loving guy. And I hope he comes back.
Ça vient drôle. Il va essayer de critiquer ouais. Trump. Il y a une voix qui va embarquer.
Yeah, a lot of people are worried that we won't keep saying what we want to say or that we'll be censored. But I'm going to cover the president's trip to the UK just like I normally would.
Dit qu'il va faire une revue
exactement.
De ce que Donald Trump fait, comme d'habitude, mais...
Well, guys, President Trump just wrapped up his 3-day trip to the UK, and he looked incredibly handsome.
La voix en bas. Il continue de parler.
As always, his tie was exactly the right length. And his face looked like a color that exists in nature. And his hair looked better than Conrad's from the summer I turned pretty.
Ça a été une... incroyable.
Ça continue comme ouais. Ça là, pendant...
Extraordinaire façon, justement, de passer le message côté de Jimmy Fallon. On espère, justement, puis même on espère, c'est sûr que ça va se faire, que la communauté